bienvenue à tous et à toutes pour le GP Explorer.
Salut les amis, soyez les bienvenus au Trophée Ambrose, c'est la dernière aujourd'hui à Superbest.
La boum ! Deuxième départ de Grand Prix de l'année.
Nous ce qu'on aime c'est que ça arrive vite et que ça pue.
Pour faire du championnat de France de drift FFS1 une expérience inoubliable.
18h-19h sur RCN, Racing Live avec Pauline Dillon-Schneider.
Montez le volume et rendez-vous au premier virage.
Bonjour et bienvenue chez Racing Live. Aujourd'hui, on se retrouve chez PH Sport à Langres. C'est une entreprise de préparation de voitures de course. Aujourd'hui, je suis avec le directeur à mes côtés, c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Vous présenter, s'il vous plaît?
Je m'appelle Bernard Piala, j'ai 57 ans. Nous avons fondé l'entreprise avec mon premier associé qui était David Henry en 1990,
okay.
Donc il y a 35 ans bientôt. Et on a commencé tous les deux et maintenant on est 35 personnes et on travaille à travers le monde sur tous les rallyes qu'on peut faire.
D'accord. Quand vous dites que vous travaillez sur les rallyes, c'est quoi votre rôle du coup?
Alors notre métier est de construire les voitures de course pour des clients. De les amener sur les courses, donc peu importe où à travers le monde, de faire ce qu'on appelle l'assistance, c'est-à-dire les entretenir, les réparer si nécessaire pendant le rallye, de manière à ce qu'elles puissent terminer la course et si possible gagner, et puis on les ramène et ainsi de suite.
Du coup, est-ce que vous avez vos propres pilotes ou vous c'est que les voitures?
Non, nous on n'a pas de pilotes, on a des clients.
Okay.
Nous possédons des voitures que nous louons à des clients.
Okay.
Mais nous n'avons pas de propres pilotes en termes dans l'équipe.
Et du coup, comment ça se passe? Vous recevez des voitures qui sont, on va dire, neutres, pas du tout préparées, et ça, vous voulez préparer...
On reçoit des puzzles,
oui.
Tout un tas de pièces.
Ok, donc il y a pas
qu'on assemble, on en fait une voiture, et une fois qu'elle est finie, après on l'amène sur les courses.
Ok, et comment ça se passe? Par exemple, là, j'ai vu que vous êtes parti hier au Monte Carlo.
Oui.
Et une fois sur place, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez?
Alors aujourd'hui et demain, on est en séance d'essai.
Okay.
C'est-à-dire que les pilotes roulent avec les voitures dans différentes conditions pour essayer de déterminer les meilleurs réglages possibles pour le rallye en question. Au rallye Monte Carlo est un rallye où on peut rencontrer de la glace, de la neige, de la pluie. Donc on doit définir des réglages qui correspondent à chaque type de terrain. Ensuite, à partir de lundi, ils vont commencer les reconnaissances. C'est-à-dire que les pilotes, eux, vont prendre une voiture de tourisme et aller repérer les routes et noter les virages. Pendant ce temps, nous, on va réviser les voitures pour les préparer, pour les remettre en état pour la course. Et à partir de mercredi après-midi, on va faire une autre séance d'essai, mais officielle du rallye. Et jeudi après-midi, la course commence à Monaco.
Et quand vous partez sur ce genre d'événement, ça demande combien de personnes de votre équipe et surtout quel métier il y a?
Alors, ce week-end, pour le Monte Carlo, on aura deux ingénieurs,
okay.
Un coordinateur sportif, 8 mécanos, deux équipages, donc pilote et copilote, deux équipages ouvreurs qui vont passer dans les spéciales avant les équipages de course pour voir s'il y a des plaques de glace, s'il y a de la boue dans les virages et des choses comme ça. On aura également trois hommes météo qui, eux, sont dans les spéciales et pour nous dire le temps du jour, la température de la route, s'il y a de la pluie qui va arriver, et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas compté, mais ça fait un peu de monde.
Oui, ça fait un peu de monde. Mmh. Vous pouvez expliquer aux gens qui ne savent pas ce que c'est un coordinateur sportif?
Un coordinateur sportif, c'est sportif et logistique. C'est quelqu'un qui, avant le rallye, prépare tout ce qui est déplacement. Les hôtels, les routes qu'on doit emprunter, qui réserve les bases d'essai, qui a toutes les relations avec l'organisateur du rallye et la FIA pour les engagements au championnat, pour les engagements au rallye, toutes les spécificités du règlement particulier. Chaque rallye a quelques spécificités. Et après, pendant la course, c'est le respect de tout ce qui est le règlement, justement. Et s'il y a des problèmes à régler, de pénalités, de réclamations, de choses comme ça, c'est le coordinateur sportif qui s'occupe de toute cette partie-là.
Ok, merci. Et vous faites tout type de championnat dans le rallye?
On fait tout type de championnat. On fait du rallye régional de Faibio jusqu'au championnat du monde au Japon ou un rallye raid au Dakar ou des choses comme ça en Arabie Saoudite.
Oui, c'est vrai, vous êtes aussi au Dakar.
Ouais.
Vous n'avez pas participé cette année au Dakar?
On a deux voitures qui roulaient avec
des
clients, mais ils roulaient sous leur propre structure. Donc voilà, on n'avait pas spécialement de mission sur le sujet. Ils viennent de terminer le rallye il y a un quart d'heure.
Oui.
Donc tout s'est bien passé.
Ok, donc dans ces cas-là, juste vous préparez leur voiture et après c'est à eux de gérer.
C'est eux qui se débrouillent avec leur mécanicien, tout à fait, oui.
C'était une question un peu personnelle, mais pourquoi le rallye? Pourquoi vous avez commencé à vouloir participer à ce monde-là et pas à d'autres sports automobiles?
Alors à la base, je suis passionné de moto.
Ok, en plus.
Quand j'étais plus petit, je faisais de la moto pour mon loisir. Et j'ai un des amis avec qui je faisais de la moto qui faisait aussi du rallye. Quand j'avais 16 ans, qui m'a fait découvrir ce monde-là. Et finalement, j'ai trouvé ça plus passionnant que la moto. Okay. Donc, depuis l'âge de 19 ans, je travaille dans le monde du rallye.
Ok. Vous avez senti une évolution peut-être avec l'évolution des technologies dans le monde du sport automobile ?
Comme dans la vie de tous les jours, en fait, tout évolue tous les jours. Ce qu'on faisait il y a 35 ans, c'est complètement obsolète maintenant, mais comme on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas d'ordinateur, enfin, tout a évolué patiemment dans le temps et a changé au fil du temps. Ouais.
Ok, rien de trop choquant ou de trop désagréable. Je sais que parfois j'ai ce genre de retour quand on parle justement de l'évolution dans le sport automobile, que la technologie est quelque chose d'un peu désagréable.
C'est l'évolution, on ne peut rien faire contre, donc on doit juste s'adapter parce qu'il y a 35 ans, quand les injections sont arrivées, on trouvait ça moins bien que les carburateurs et ainsi de suite. Donc en fait, on n'est jamais content et toujours passéiste. Donc non, il n'y a rien de choquant. Non.
D'accord. Avant de passer à la visite des ateliers, je vois que vous avez plein de trophées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, bon, peut-être pas un par un, mais ce qui représente ou quelle course y représente ou quel type de championnat ?
Alors, on a des trophées qui représentent des victoires en rallye, on a des trophées qui représentent des titres, on a des trophées qui représentent notamment la troisième place au Dakar avec Sébastien Loeb en 2019. C'est des événements marquants de l'entreprise qu'on a conservé parce que c'est vraiment des choses qui étaient très fortes émotionnellement quand on les a gagnées. Oui.
Est-ce que vous avez préparé une voiture que Sébastien Loeb a... Ça a été un de vos clients, en fait, finalement.
Sébastien Loeb a commencé sa carrière chez nous en 1997.
Okay.
Il a été client au tout début avec la 106 16 soupapes en 1997. Après, en 1998, avec la Saxo Kit Car. Et ça, jusqu'en 2001. Ensuite, il est devenu pilote officiel Citroën. Et en 2019, on l'a refait courir au Dakar avec une Peugeot 3008 DKR, où on a fini troisième.
En off, je vous ai demandé si vous aussi vous pilotez et vous avez l'air d'avoir une anecdote à me raconter. Donc, je vais passer le micro à Enola.
Oui, elle peut récupérer le micro, oui.
Du coup, moi je suis Enola Piala, la fille de Bernard et je travaille également au sein de PH Sport. Et la petite anecdote en off dont on discutait, c'est qu'on a fait un rallye tous les deux en Roumanie l'année dernière où papa a piloté, moi je copilotais et on a plutôt bien rigolé, mais je vais le laisser le raconter.
On a fait une séance d'essai une semaine avant de partir au rallye et au bout de quelques kilomètres, on a rapidement fait un tonneau qui est ma grande spécialité. En fait, j'avais déjà fait une autre course en Côte d'Ivoire avec mon fils et on avait fait un tonneau au bout de 500 mètres dans la première spéciale, ce qui ne nous avait pas empêché de terminer et même de gagner au demeurant là-bas. Et là, effectivement, elle m'avait dit « Papa, tu fais pas de tonneau » et en fait, on n'a pas tenu 10 km avant qu'on fasse le premier tonneau. Mais le seul du rallye, en fait, on n'en a pas refait après.
Ce qui a mis quelque peu en péril notre participation quand même au début.
Pourquoi du coup vous pensez avoir fait un tonneau, vous savez ou pas ?
Ah, c'est de sa faute.
Ah bon ?
Je vais récupérer le micro. Non, on était parti pour deux runs et je ne sais pas trop pourquoi, on a fini par en faire un troisième. Et dans le tout dernier virage du circuit 10 sur T, parce qu'on testait à 10 sur T, il a pris un peu trop corde. Et on est monté sur la butte et on est parti en tonneau.
Ce qui ne nous a pas empêché de changer le pare-brise et continuer la séance d'essai 2 heures après.
Exactement. On a failli pas partir parce qu'on s'est hurlé dessus. Mais 10 minutes après, c'était passé et on était en Roumanie. Et...
Oui, parce qu'un tonneau, c'est pas grave.
Et on a bien rigolé. Non, on a passé une semaine de dingue ensemble avec l'équipe qui est géniale. Et on a vraiment beaucoup, beaucoup rigolé. Ils ont fait un travail de fou pour réparer la voiture sur place. Et donc, semaine vraiment inoubliable.
Vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe du coup en tant que pilote et copilote une semaine dans une course de rallye ?
Alors on est parti le lundi soir, on est arrivé le mardi en Roumanie. Le mercredi on a fait une petite séance d'essai pour valider que tout se passe bien. Mais au vu de mes péripéties de la semaine d'avant, on n'a fait qu'un seul passage. C'était bien assez pour éviter de refaire un tonneau supplémentaire. On n'avait pas assez de pare-brise sinon pour le week-end. Le jeudi et vendredi on a fait les reconnaissances. Donc on est passé dans deux passages dans certaines spéciales, c'était un rallye sur terre dans les montagnes roumaines qui était superbe. Et le samedi et dimanche on a fait le rallye où ça s'est pas trop mal passé hormis une crevaison, okay. Mais rien de bien grave.
Moi je suis contente de vous parler parce que j'ai toujours beaucoup respecté les pilotes, mais surtout les copilotes. Vous pouvez nous raconter un peu comment c'est être copilote ? Parce que c'est quand même intense.
Alors moi, pour le coup, je suis pas du tout copilote de base, vraiment pas. J'ai fait quelques piges en tout terrain, mais rien de fou. Et c'était la première fois que je copilotais en rallye avec mon père en Roumanie. Donc je vais faire de mes peu de connaissances en Roumanie et de ce que je vois du monde dans lequel on évolue. Mais copilote, c'est un gros travail avec la coordination du team, où on va tout préparer en amont. Ce qui va être tout le règlement, l'engagement, les reconnaissances. Il y a tout un planning de reconnaissance pour savoir à quel moment on reconnaît quoi. C'est très timé, très millimétré. Ça va être une grosse préparation administrative et surtout sportive pour qu'une fois sur le rallye, tout soit prêt, tout soit carré. Et une fois sur le rallye, le copilote, c'est donc la personne qui va annoncer les notes dans la voiture, mais vraiment pas que, c'est celui qui va pointer, c'est celui qui va gérer aussi toute l'organisation au global du pilote, de la relation entre l'équipage et l'équipe technique. Ça va être c'est un gros travail, le copilote, qui est souvent un peu... on se rend pas compte de tout ce qu'ils font, mais non, il y a un très très gros travail. Alors j'oublie sûrement énormément de choses, mais en gros, c'est la personne qui va gérer un petit peu tout l'équipage et tout ce qu'ils vont faire, à quel moment, comment. Et dans la voiture, c'est aussi un métier qui demande énormément de confiance, parce qu'on gère pas grand chose au final, et au final, ça va être de faciliter la vie du pilote pour qu'il s'occupe de piloter et rien d'autre. Et le copilote va annoncer les notes, va gérer les pressions, va gérer le timing, va gérer toutes ces petites choses là Encore une fois, j'oublie sûrement plein de choses, mais c'est ce qui me vient.
Bah oui, le pilote conduit et le copilote fait tout le reste. Voilà. À quelle heure on mange, à quelle heure on se lève, à quelle heure on part, on tourne à gauche, on va à droite, tu t'arrêtes au stop et après, on doit pointer à telle heure et dire les notes dans la spéciale et à la sortie de la spéciale, prévenir l'équipe technique et le pilote, lui,
il conduit. C'est quand même un énorme rôle parce que si vous vous trompez, vous avez quand même un impact énorme sur la route.
C'est ce qu'on dit souvent. Au final, le copilote, effectivement, il va annoncer les notes. Donc, s'il annonce pas la bonne note, ou trop en retard, ou trop en avance, ça va mettre en péril la course. Mais c'est autant de pression que le pilote qui va pouvoir faire une erreur aussi. Tout le monde peut faire des erreurs. L'équipe technique peut faire une erreur. L'équipage peut faire une erreur. Au final, c'est un vrai travail d'équipe où tout le monde doit faire son travail correctement, le faire même, je dirais, parfaitement pour qu'au final, tout se passe bien et qu'on puisse essayer d'aller chercher des victoires et jouer devant.
Vous en gardez une bonne espérance d'avoir fait ça ensemble? Vous recommencerez à faire ce genre de course?
Sûrement. Non, ça faisait des années, on est tous les deux très passionnés. Moi, grâce à mon père, 100%. Mais ça faisait des années et des années qu'on disait qu'on voulait en faire un. Et puis l'occasion s'est présentée, donc on a fait ça. Et oui, moi, j'en retiens une aventure sportive et humaine incroyable. Et si un jour on a l'occasion d'aller revivre ça, en plus avec mon père, ce sera avec grand plaisir.
On verra.
Merci beaucoup. Merci. Du coup, je pense qu'on va passer à la visite. Je pourrai en apprendre plus sur votre métier. On pourra un peu plus comprendre ce que vous faites et tout ça. Donc là, on se trouve dans votre hall d'entrée.
Oui,
c'est ça. Quand on arrive, quand vous recevez des clients, on est face à ces voitures.
Voilà, oui, effectivement. Alors, c'est le hall d'entrée où on a gardé quelques voitures qui ont marqué l'histoire de l'entreprise. Donc, la voiture jaune à droite, c'est la première voiture, une des premières voitures de Sébastien Loeb, avec laquelle il a gagné le trophée Saxo Kit Car en 1999. À côté, c'est la voiture de Sébastien Ogier, avec laquelle il a été champion du monde junior en 2008. Il y a la photo du podium là-haut où on est tous à la victoire au championnat du monde au Tour de Corse 2008. À côté, c'est une voiture qui n'est pas décorée à la couleur de l'époque, mais qui est, avec laquelle Sébastien Loeb a gagné le rallye du Mexique 2012. Et à côté, c'est une voiture qu'on a redécorée aux couleurs d'un client qui est décédé en 2007. Et qu'on a gardé un souvenir parce que c'était quelqu'un avec qui on était particulièrement attaché. Donc, elle fait partie de l'histoire de l'entreprise aussi. Même si le souvenir n'est pas aussi agréable que certains souvenirs.
J'imagine. Donc, elles sont toutes totalement différentes.
Oui.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi elles sont toutes différentes?
Alors là, on a une Saxo Kit Car qui était les toute première kit car qui a existé à ses débuts. À côté, on a une C2 Super 1600 qui est une évolution des kit cars qui est quelque chose qui est sorti un petit peu plus tard avec plus de liberté. À côté, on a une DS3WRC alors, qui était jusqu'en 2016 le summum, la Formule 1 du rallye en fait. Et à côté, on a une Saxo T4 qui était une voiture de formule de promotion, qui était une petite voiture abordable pour rouler sur la terre.
Comment on choisit une voiture en fonction du rallye qu'on va faire ?
Alors, il y a plusieurs, c'est paramètres.
C'est le choix du pilote, non ?
C'est déjà le budget, condition de le choix de la voiture, la surface, si on va rouler sur la terre ou sur l'asphalte, et après aussi l'ambition, si on veut gagner le rallye au scratch ou si on veut gagner sa catégorie, si on veut participer à une formule de promotion, il y a différents critères qui rentrent en compte.
Ok.
Mais le premier, c'est le budget. Ils rêvent tous de rouler avec la plus grosse voiture possible pour gagner le rallye.
C'est vrai ?
Ouais.
Bah, surtout que là, vous avez des voitures de Sébastien Loeb quand même. C'est pas n'importe qui, je pense que... C'est pas compliqué d'ailleurs d'avoir un client comme lui ?
Alors, pas du tout, parce que déjà, quand il a commencé à travailler avec nous, il a fait que 4 rallyes dans sa vie. Il était absolument inconnu. Il a grandi, on a grandi ensemble en fait, parce que nous aussi on était inconnus à l'époque. Il nous a permis d'avoir une forte notoriété grâce à son talent. On lui a fourni des voitures performantes qui lui ont aussi permis d'exploiter son talent. Et donc non, c'était pas compliqué parce qu'on était tous les deux dans au même stade de carrière quand on s'est connus.
Ok, c'est beau d'avoir grandi comme ça ensemble en même temps.
Ouais, c'est un super souvenir. Oui.
Vous faites aussi les décos des voitures du coup ?
Alors, on fait aussi les décos des voitures.
Avec vos sponsors.
Je vais vous montrer où on réalise ça. On a un atelier qui est spécialisé dans toute cette partie-là.
Ah oui.
Pardon, je me suis trompé d'interrupteur. Voilà, ici, on a une personne qui travaille à temps plein, qui fait le design des voitures et qui on soumet ce design aux clients. Et après, on réalise la déco. Donc, soit on fait du total covering avec les rouleaux que vous voyez là-bas de couleur, soit on imprime une décoration. Je ne sais pas si on en a à l'heure actuelle. Non, on n'en a pas d'impression. On imprime une décoration où on peut mettre exactement ce que le client a envie. La DS3 qui est là, par exemple, c'est une décoration imprimée. Je vais vous montrer ça, peut-être qu'on le voit un petit peu mieux. Vous voyez, il y a le nom du sponsor qui est imprimé. Et en fait, on pose après une décoration complète, en fait.
D'accord.
Donc on peut mettre votre visage, on peut mettre une montagne, on peut faire n'importe quoi en décoration aujourd'hui avec une impression numérique.
Donc là, vous travaillez avec votre client et c'est lui qui vous dit j'aimerais ça, j'aimerais ça.
Voilà,
et vous
exactement. Faites, après, on lui propose un design en fonction des couleurs qu'il a choisies. Et puis, un peu plus de rouge, un peu plus de bleu, un peu plus de... Okay. Voilà, et au final, on valide une décoration qu'on réalise et qu'on pose après.
D'accord. Et c'est combien de personnes à peu près pour faire ça ?
Allez, on n'a qu'une personne voiture. Qui fait ça. Ouais.
Oh, waouh, ok.
On a une personne qui fait ça toute l'année, de réaliser des décos et de les poser.
Donc vous créez vraiment les voitures de A à Z, c'est fantastique.
Ouais.
De la déco à la mécanique. Okay.
Après, on a la partie communication et coordination ici. Donc on a deux personnes à la coordination qui travaillent ici et deux personnes à la communication. Donc la coordination, comme on a parlé tout à l'heure, il s'occupe de gérer tout ce qui est les déplacements, les rallyes, les hôtels, les engagements. Et la communication, il s'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, communication d'entreprise, chartes graphiques, toutes les choses qu'on peut avoir à faire pour continuer à mettre l'entreprise en avant et que les gens nous connaissent.
Ok.
Donc voilà pour cette partie-là. Et maintenant, on va passer dans la partie de l'atelier. Alors l'atelier n'est pas forcément très plein en ce moment parce qu'on est parti au rallye de Monte Carlo. Donc de ce fait, il manque pas mal de voitures. Donc voilà, ici on construit des voitures, on répare des voitures, on révise des voitures.
D'accord.
Donc les box que vous voyez vides sont des voitures qui sont parties au rallye de Monte Carlo justement. On a deux voitures qu'on est en train de finir qui vont partir en Indonésie la semaine prochaine.
D'accord.
Qu'on a vendues à un client. Voilà, c'est un atelier finalement, comme tous les ateliers.
Donc chaque voiture qui se trouve là appartient déjà à un client ?
Alors pas forcément, non. Il y a des voitures qui appartiennent à des clients, il y a des voitures qui nous appartiennent et qu'on loue à des clients en fait.
Oui, vous ne construisez pas que sur demande ?
On construit... Oui et non, on construit... Si le client souhaite une voiture, on lui construit une voiture et après on construit nos propres voitures pour pouvoir les louer.
D'accord.
Voilà.
Et vous louez plus de voitures que vous en construisez pour une demande de client ? Comment ça...
C'est à peu près équivalent. Il y a des clients qui veulent posséder leur voiture et il y a des clients qui veulent juste louer des voitures ou ponctuellement ou sur une saison.
D'accord.
Mais la location leur permet d'avoir la liberté de changer de voiture quand ils en ont envie.
Oui.
la propriété les oblige à vendre leur voiture avant d'en racheter une autre. Donc voilà, on a tous les types de clients en fait.
Ok, ok. Il y a beaucoup de... D'accord, oui, c'est un gros atelier quand même.
Oui, 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 un petit peu de...
Et est-ce que vous travaillez avec des marques en particulier? Je vois beaucoup de Peugeot.
Alors on travaille essentiellement pour Citroën, Peugeot et un petit peu Renault.
Ok.
Voilà, mais notre plus gros marché se trouve chez Stellantis avec les Citroën et les Peugeot.
Je peux vous demander pourquoi?
Alors, historiquement, en 90, on a commencé avec des Renault, des R5 GT Turbo. En 96 ou 97, on a commencé à faire des Citroën. Et Citroën a été content de ce qu'on faisait, nous a confié des programmes officiels à partir de 99. Et depuis 99, on travaille énormément pour Citroën sur des programmes officiels comme cette année en championnat du monde WRC2 avec Johan Rossel et Léo Rossel.
Ok, ok, d'accord. Vous pouvez nous parler peut-être de quelques voitures en particulier, ou peut-être les mécaniciens, ils peuvent le faire, mais par exemple celui-là, nous dire ce qu'il est en train
Alors,
de faire.
Alors, la personne que vous voyez là-bas est la personne qui s'occupe de la décoration, justement.
Okay.
Là, il est en train de complètement destiquer une voiture, d'enlever toute la décoration qu'il y a dessus, pour remettre une autre décoration aux couleurs de notre client.
Ok, d'accord.
Donc voilà, après des voitures en particulier, alors je ne sais pas trop quoi vous dire, parce qu'il y a plein de voitures différentes. Je ne sais pas vraiment vous parler d'une voiture en particulier. Des C3 Rally 2, des Clio Rally 5, des Clio Rally 3, 208 Rally 4. Voilà, on a un Zephyr là-bas aussi. C'est, voilà, toutes des voitures. C'est plus, posez-moi des questions pour que je réponde.
Comment on prépare une voiture de rallye?
Alors, comment on prépare une voiture de rallye? Alors, on n'a pas trop de chance là parce qu'on n'en a pas reçu les nouvelles. En fait, quand on reçoit une voiture, comme je vous ai dit tout à l'heure, on reçoit des cartons de pièces.
Oui, c'est pas la voiture comme on la voit.
Non, ces cartons de pièces, on va les déballer, on va les trier. Et tous ces cartons de petites pièces vont nous permettre de faire des sous-ensembles. C'est-à-dire, par exemple, on va recevoir un pivot, mais le pivot, on va le recevoir en 25 pièces.
Okay.
Il faut l'assembler. Et une fois que le pivot est assemblé, on pourra enfin le mettre sur la voiture, et ainsi de suite pour toutes les pièces. Donc, quand la voiture arrive, il y a, je ne sais pas vous dire si c'est 5000, 10000 pièces en vrac. Et on trie et on assemble.
C'est ça qui vous permet justement de tout calculer et de tout préparer comme vous le souhaitez finalement, d'adapter aussi
Alors oui et non, la voiture est figée par le constructeur et par une homologation FIA qui ne nous permet pas d'inventer des pièces.
Oui.
Après notre savoir-faire c'est déjà de les assembler correctement et de faire en sorte qu'on puisse les réparer le plus rapidement possible, qu'on puisse trouver les bons réglages et ainsi de suite, toutes ces choses-là. Quoi. Donc on a notre valeur ajoutée est non pas dans la conception mais dans l'assemblage et la préparation.
D'accord. Le rallye c'est un sport automobile qui est quand même propre à lui-même, est-ce que du coup il y a des pannes qui sont propres à ce sport?
Alors des pannes en soi non, par contre des accidents oui.
Oui.
Attention, il y a une voiture qui arrive, vous ne faites pas écraser. Non, mais elle va aller là. Vous n'avez pas de chance, vous mettez au mauvais endroit. Donc voilà, le rallye, par définition, se passe sur de la route. Sur une route, c'est étroit, il y a des arbres, il y a des rochers, il y a tout plein de choses. Donc il peut se passer à tout moment un accident. Alors, potentiellement pas forcément grave, mais qui entraîne des dégâts sur la voiture. La voiture arrive à revenir jusqu'à nous.
Okay.
Et nous, à ce moment-là, on doit la réparer, la remettre en état pour qu'elle puisse continuer la course dans les bonnes conditions comme elle l'a commencé. Après, malheureusement, quelquefois, elle reste sur place parce que les dégâts sont trop importants pour qu'elle continue. Donc là, on va la récupérer dans la journée et on va la réparer le soir pour qu'elle reparte le lendemain matin. Donc voilà, donc après pour réparer la voiture, bien entendu, il faut avoir les pièces et les mécanos qui savent faire.
Quelle est la différence entre cette voiture dans la vie de tous les jours et le fait qu'elle soit une voiture de rallye?
Alors sur celle-là, il n'y a pas énormément de différence parce que la catégorie Rallye 4 est une voiture qui est relativement proche de la série. Esthétiquement, il n'y a pas de différence. La différence majeure est qu'il y a un arceau. Et après, le moteur est un petit peu modifié. La boîte de vitesse est remplacée par une boîte à vitesse séquentielle. Les freins sont remplacés par des freins plus performants, les amortisseurs sont remplacés par des freins plus performants. Arrêtez de faire du bruit. Son pénible, il travaille.
De toute façon, on n'entendra pas beaucoup.
Donc voilà, et après, on a d'autres voitures, comme celle-là, qui possèdent beaucoup plus de modifications, parce que là, par contre, elle est transformée en 4 roues motrices.
Ok.
Donc, y a, et ça c'est la catégorie Rally 2, donc qui est la deuxième catégorie la plus importante en rallye. Et donc là, oui, le moteur est beaucoup plus préparé, on la passe en quatre roues motrices, il y a beaucoup plus de choses. Esthétiquement, il y a des ailes plus grosses, il y a un aileron. Voilà, c'est une C3 alors qu'on ne la reconnaît pas forcément, alors que la 208, on la reconnaît bien.
Effectivement. Et là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire
Alors là, ils vont la remettre sur chandelle.
Okay.
Ils viennent d'aller la passer au train pour régler les trains roulants pour qu'elle soit parfaite. Et maintenant, ils vont remettre sur chandelle pour finir de l'assembler, mettre les radiateurs, les échangeurs. Et après, on va la livrer, après l'arrêt de Monte Carlo, on va la livrer au client. Elle va partir à Toulouse.
Ok, pourquoi Toulouse?
Le client qui l'a acheté de Toulouse.
Ok, tout simplement. Basiquement,
ouais.
Ok.
Donc après, on va aller voir la carrosserie.
Ouais.
Alors il y a toujours, comme vous voyez, des voitures en préparation, en révision. Donc ici, on a la carrosserie où on répare les voitures, on peint les voitures, on peint des éléments. Donc là, voilà, on a une 208 Rallye 4 qu'on vient de peindre, qu'on est en train de finir et qu'on va amener dans l'atelier pour assembler, pour réparer une voiture qui a été accidentée où la coque a été cassée. Donc on change le châssis en fait.
Donc là c'est la première étape en fait finalement de la préparation de la voiture.
C'est la première étape de la préparation de la voiture. La voiture arrive ici avec l'arceau dedans déjà.
Oui,
par contre elle n'est pas peinte.
Ok.
Donc elle arrive à ce qu'on appelle le tôle brut. Donc il faut qu'on la peigne, qu'on fasse toutes les modifications, qu'on fasse l'étanchéité, en fait qu'on fasse pour pas que s'il pleut il y ait de l'eau qui rentre dedans, qu'il y a de la poussière, ainsi de suite. Et après, ben là, donc celle-là, elle va être finie aujourd'hui, elle va sortir de la carrosserie aujourd'hui et elle va partir dans l'atelier pour être remontée.
Ok, c'est une étape qui prend à peu près combien de temps?
La peinture?
Oui, l'étape toute
la carrosserie. Il faut compter à peu près 2 semaines pour arriver à la peindre. Oui, c'est plutôt très long si on veut le faire bien.
Encore,
pas
que c'est si long. Okay.
Si. Il y a beaucoup de petites choses à faire en fait, pour que la voiture soit étanche, pour qu'il y ait justement une fois de plus, il n'y ait pas d'eau, pas de poussière, toutes ces choses-là dedans.
D'accord.
Et comme vous pouvez le voir, on ne peint pas la même couleur à l'intérieur que l'extérieur.
Oui.
Donc du coup, ça demande aussi un petit peu plus de travail. On peint des morceaux d'arceau en noir pour éviter les reflets quand il y a du soleil sur la peinture brillante, quand
c'est
un noir mat.
Ce que vous allez vous demander si justement il y a des choses à adapter en fonction de la course en fait.
Alors c'est pas en fonction de la course, en fonction d'un type de course en particulier, c'est en fonction de la course au global. Tout ce qui peut être reflé peut être très gênant quand on roule très vite. Donc l'arceau est peint en noir mat pour pas que ça brille. Le tableau de bord est peint avec une peinture de tableau de bord d'hélicoptère anti-reflet.
Okay.
De manière aussi à ne pas avoir de reflet et qu'il n'y ait rien dans l'environnement visuel du pilote qui puisse à un moment le gêner.
D'accord, oui, c'est vraiment toutes ces petites choses-là qui sont logiques finalement, mais il faut quand même y penser.
On perd pour un détail et c'est la somme des détails qu'on gère qui évite de perdre justement.
Effectivement, c'est vrai que quand on regarde des rallyes, on ne se rend pas compte en fait de tout le travail qu'il y a derrière. C'est très minutieux de préparer une voiture.
La préparation de la voiture est très minutieuse, le pilotage est très minutieux, les réglages sont très minutieux. En fait, une fois de plus, c'est la somme des détails qui nous fait gagner et quand on en loupe un, ça peut vite devenir catastrophique.
Ouais. Effectivement.
Donc voilà, au fond on a des châssis qui sont en cours de réparation.
Okay.
Donc voilà un peu pour la partie carrosserie. Ah voilà, ils vont faire du bruit.
C'est très intéressant parce qu'on a déjà eu dans cette émission des pilotes, mais c'est bien aussi de voir le derrière justement.
Et après on va passer dans la partie stockage, où on a tout ce qui est préparation des chargements, toutes ces choses-là. Et ici on a un 3008 du Dakar. Alors là, c'est un petit peu vide parce qu'on est parti aussi. Donc ici, on a tout ce qui est stockage des pneus, des jantes, du matériel d'assistance, des bâches, des tentes, des criques, la zone de lavage. Donc ben ici, basiquement, on recule les camions, on les charge avec ce qu'on a besoin pour la course, c'est-à-dire les roues asphalte, si c'est un rallye asphalte, les roues terre, si c'est un rallye terre, la tente aux couleurs du sponsor, la tente aux couleurs PH Sport en fonction du rallye où on va, les bâches aux bonnes couleurs, tout le matériel qu'on peut avoir besoin et qui peut être différent en fonction du rallye et en fonction du client.
Ok.
Donc voilà, ici on a toute cette partie-là. Et après, on va retourner dedans, on a toute la partie magasin, où là on a tout le stockage des pièces qu'on peut avoir besoin pour travailler. Donc ici au-dessus, on a tout le magasin de la carrosserie, où on stocke toute la tôlerie pour être réactif et ne pas être obligé d'attendre de recevoir la pièce.
Ok, vous avez déjà...
Pardon ?
Vous avez déjà plein de pièces en fait en
stock. Oui, on a énormément de pièces en stock parce que quand la voiture est cassée, elle peut être cassée le dimanche et repartir le vendredi d'après à un autre rallye. Sauf que quand on va aller chez le concessionnaire ou chez le constructeur pour commander la pièce qu'on va avoir besoin pour réparer, ben, il ne va pas l'avoir en stock. Oui. Et du coup, on ne va pas être capable de réparer. Donc, on a énormément de stock pour pouvoir ne pas être dépendant de ces pièces qui doivent arriver. Et en fait, on s'en sert un peu de stock tampon. Si la pièce n'arrive pas, ben, on prend dans notre stock. Et si la pièce est arrivée, ben, elle reste en stock. Et pour la prochaine fois, au cas où. Donc voilà, on est toujours de manière à toujours pouvoir réparer la voiture et être prêt pour le rallye d'après.
D'accord.
C'est un peu ce qui fait notre force, c'est qu'en fait on est capable de réagir toujours très très vite avec notre stock. Donc on a deux personnes au magasin qui gèrent le stock de pièces en permanence, de manière à ce qu'il ne nous manque jamais rien.
Vous pouvez nous parler un peu de cette voiture? Je vois que c'est marqué Rallye Jeune dessus.
Alors oui, cette année on s'est occupé de toute la partie technique des sélections Rallye Jeune.
D'accord.
Donc l'opération Rallye Jeune, c'est une opération qui est initiée par la FFSA et qui permet à toutes les personnes, je crois, de moins de 25 ans de s'inscrire à cette sélection, de faire un parcours de chronométré. Et puis les meilleurs temps sont pris pour une finale. Et à la finale, les deux garçons et une fille gagnent une saison en championnat de France avec payé par effectivement la fédération, qui a permis à de nombreux pilotes de percer dans le sport auto. Sébastien Loeb n'avait pas gagné, avait fini deuxième, mais avait été remarqué par des gens. Sébastien Ogier a gagné la sélection Rallye Jeune. À l'heure actuelle, Adrien Fourmeau, qui est un pilote Hyundai, a gagné Rallye Jeune. En fait, il y a énormément de très bons pilotes français qui sont issus de cette sélection, qui n'auraient certainement pas pu courir sans ceci, parce qu'ils n'avaient pas d'argent.
Oui, est-ce que c'est une sélection justement pour tout le monde?
Alors c'est pour tout le monde, ça coûte 20 € de s'inscrire.
Et comment du coup on prépare une voiture pour des budgets à 20 €? Du coup c'est comment?
Alors,
c'est, faut avec l'État, non?
C'est non, la voiture elle est strictement de série.
Ok.
Voilà, c'est un parcours sur un parking avec des quilles qui dure une vingtaine de secondes. Ça peut paraître très court et les écarts sont très faibles, mais les meilleurs pilotes sortent forcément devant sur ces choses-là. Alors effectivement, il y a des très bons qui sont passés à côté, comme Sébastien Loeb. Mais oui, la voiture, elle est strictement d'origine. Il n'y a rien de spécial.
Vous savez pourquoi une 208?
Parce que Stellantis est partenaire de l'opération.
Okay.
Donc les voitures sont fournies par Stellantis. Et ensuite, après, ils courent dans le cadre du championnat de France avec des Peugeot 208 aussi.
Ok. J'ai une question sur une voiture devant laquelle on est passé, la voiture du Dakar.
Oui.
Vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors oui, je peux vous en parler un petit peu. On va aller allumer pour qu'on la voit un petit peu mieux. Donc ça, c'est une Peugeot 3008 DKR qui a fait le Dakar avec Cyril Després et Mike Horn en 2021. Donc c'est des voitures qui sont spécifiquement faites pour le sable et les grandes étendues. Comme vous pouvez le voir, c'est très gros, c'est très haut, c'est très large, ça a des grosses roues, c'est très particulier, c'est complètement différent des voitures de rallye traditionnelles en fait dans la conception.
On va essayer de filmer un peu comme tu peux sur les côtés, tout ça. C'est vrai que c'est vraiment impressionnant. On croirait pas quand on regarde le Dakar qu'elles sont assez énormes.
Non, on ne se rend pas du tout compte de la grosseur des voitures, ouais.
Et comment on prépare une voiture pour le Dakar?
Alors, c'est la même préparation qu'une voiture traditionnelle, hormis que les pièces sont différentes. Okay. Une voiture de rallye traditionnelle, une roue pèse 20 kg. Là, les roues pèsent 47 kg.
Okay.
Donc, tout est dimensionné. En fait, une voiture de rallye traditionnelle, dans les cas les rallyes les plus longs, comme une manche de championnat du monde, on fait 350 km en 3 jours.
Oui.
Un Dakar, c'est 5000 km en 12 jours. Et les étapes font jusqu'à 500 km sans que nous, on voit la voiture pour la réviser ou quoi que ce soit. Donc en fait, les pièces sont dimensionnées beaucoup plus grosses, beaucoup plus solides pour résister aux impacts, pour résister à la longueur de la course, et ainsi de suite. Donc c'est la même chose, sauf que les pièces sont différentes.
Et les terrains au Dakar changent un petit peu quand même, c'est pas que du sable, il y a aussi de la terre, tout ça.
Il faut
que la
sable,
voiture puisse s'adapter aussi à tout ce type de terrain.
Alors là, c'est pareil, une fois de plus, déjà dans la longueur des étapes de 500 km, on rencontre un peu tous les types de terrains.
Oui,
donc on va pas forcément le faire comme on peut faire un rallye spécifique pour la neige, pour des choses comme ça. Donc après, oui, on adapte quelques réglages en fonction de la spécificité de la spéciale du jour. Mais grosso modo, les réglages sont quand même beaucoup plus figés que ce qu'on peut avoir en rallye où on va changer d'une spéciale sur l'autre.
Okay.
Celle-là, elle a fait le Dakar en 2021, Cyril Després et Mike Horn.
Ok, 2021.
Donc Cyril Després, multiple vainqueur du Dakar en moto. Et Mike Horn, vous connaissez peut-être, célèbre explorateur fou.
Qui touche un peu à tout apparemment.
Ah oui, oui, c'est un personnage, oui, c'est...
Et vous vous souvenez un peu du classement qu'ils ont fait?
Dixième.
Ok.
passer, donc on a vu la partie magasin avec les deux magasiniers. Donc on va passer un peu dans la dernière partie où la plus grosse partie, enfin une des plus grosses parties du travail se fait, c'est-à-dire le bureau des ingénieurs,
okay.
qui eux déterminent les setups de les réglages des voitures, comment elles doivent être montées, avec quelles pièces, quels amortisseurs, quels réglages, quel rapport de boîte de vitesse, quel moteur, combien pèse l'équipage de manière à pouvoir faire la répartition des masses sur la voiture, et ainsi de suite. Le suivi kilométrique des pièces, pour savoir, chaque pièce a une durée de vie. Donc en fonction de cette durée de vie, on doit changer les pièces à intervalles, on va pas dire régulier, mais régulier en kilométrage. Donc il faut suivre exactement chaque pièce de manière à ne jamais tomber en panne et la changer en temps et en heure. Donc ça, c'est le bureau, c'est le boulot des ingénieurs qui passent énormément de temps à tout suivre et à tout répertorier. Donc on va aller dans leur bureau, ils sont là. Donc voici le bureau des ingénieurs et du chef d'atelier. Alors ils ne sont pas tous là parce qu'ils sont partis au rallye de Monte-Carlo.
Okay.
Mais c'est ici qu'on définit exactement les meilleurs réglages pour la voiture de manière à pouvoir gagner le rallye.
Ok.
Après, on n'y arrive pas toujours.
C'est vraiment le cerveau des voitures, quoi, finalement.
C'est le cerveau des voitures, ici, effectivement, où tout se détermine au départ de manière à ne pas se tromper avec l'expérience des années passées, la météo que l'on va rencontrer sur le rallye, s'il va faire beau, s'il va pleuvoir, s'il va y avoir de la boue, et ainsi de suite. Donc voilà, on doit tout préparer ici en amont de la course pour être sûr d'essayer de maximiser le résultat.
Okay.
Donc voilà, et après, en fait, il ne reste plus que le bureau de la comptable. Et donc là-bas en face, nous avons le bureau de la comptable, qui, alors là, c'est la partie plus traditionnelle, en fait, c'est de la comptabilité comme n'importe quelle entreprise. Achat, vente, facture, paiement des fournisseurs, paiement des charges sociales, toutes les choses qu'une comptable peut avoir à faire. Et voilà, on est revenu dans le hall.
Quelles sont les plus grandes difficultés pour vous dans votre travail ? Dans la préparation d'une voiture, c'est quoi les...
Il n'y a pas de grandes difficultés. Une fois de plus, on met bout à bout tout un tas de petites choses pour que ça se passe bien. Après, chaque personne dans l'entreprise est hyper importante. Chaque tâche est hyper importante. La personne qui fait les stickers, si la voiture est mal faite et qu'on ne voit pas les sponsors et que le client ne va pas être content. Les réservations d'hôtels, si on n'a pas les hôtels le bon jour au bon endroit. Les mécaniciens, s'ils ont oublié de charger des pièces et que c'est la pièce qu'on a cassée qu'on a besoin. En fait, chaque rouage est hyper important.
Il y a beaucoup de réglementations à suivre ?
Énormément de réglementations à suivre, ouais. Tout est hyper, comme dans la vie de tous les jours, tout est hyper réglementé. On doit faire attention à une multitude de détails pour ne pas se faire mettre hors course ou pour ne pas abandonner parce qu'on s'est trompé sur quelque chose. Donc voilà, toute la journée, on doit faire attention à un tas de petites choses.
C'est aussi justement peut-être le rôle des ingénieurs de faire attention à ça.
Alors les ingénieurs ont un rôle à faire attention à certaines choses. Les mécaniciens ont un rôle à faire attention à d'autres choses. La logistique doit faire attention à d'autres choses. La communication doit faire aussi attention à d'autres choses. De pas se tromper de photos de voiture, de pas divulguer une décoration trop tôt. Voilà, il n'y a pas de petites choses. Il n'y a que des choses très importantes, une multitude de choses très importantes.
Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie aussi M. Piala de nous avoir accueillis dans ses ateliers. Et on se retrouve dans 2 semaines dans une nouvelle émission.